Si vous nous rejoignez ce soir pour la première fois, ou si ça fait un moment que vous n'êtes pas venu, nous sommes en train de faire un survol de la Bible en 24 heures. Alors, on n'a pas commencé hier matin à 7 heures jusqu'à demain matin 7 heures, mais on a décidé de faire une étude en 24 semaines, une heure par chaque semaine, pour survoler l'ensemble de toute la Bible. On a vu l'Ancien Testament, et là, on termine le Nouveau Testament, on est à la session, à la 21e heure de la Bible, en 24 heures. Les deux prochaines sessions, Dieu voulant, seront consacrées à l'Apocalypse, et puis nous terminerons par une revue générale de toute la Bible. C'est ambitieux comme projet, mais c'est ce qu'on aimerait faire. Et ce soir, on a vu tout au cours de cette étude qu'en fait, Dieu voulait s'assurer qu'on savait que son message était la vérité. Et Dieu, il a une particularité, c'est qu'il est en dehors du temps. Pour nous, le temps, c'est la ligne de l'infini, le tableau qui part à gauche. On fait le trait sur le tableau noir avec la petite flèche vers plus l'infini. Et on a le sentiment que ça, c'est l'éternité. En fait, c'est pas l'éternité, c'est simplement une ligne droite infinie. Mais Dieu, il est en dehors du temps, c'est-à-dire qu'il est dans une autre dimension. Et parce qu'il est dans cette autre dimension, il connaît ce que nous appelons le futur. Pour lui, il le voit déjà. Et pour nous montrer qu'on peut se fier à tout ce qu'il nous a dit dans sa parole, il a utilisé les prophéties. Les prophéties, c'est quelque chose d'unique dans toute la littérature mondiale religieuse. Il n'y a pas de prophéties dans les livres saints comme il y a des prophéties dans la Bible. On va revenir aux prophéties. L'ensemble de l'étude de Dieu en sciences humaines, c'est drôle de parler de Dieu dans les sciences humaines. Ça s'appelle la théologie, comme vous le savez, hein, l'étude de Dieu, théologos. Et il y a plusieurs spécialités. Il y a la bibliologie, l'étude de la Bible. La théologie, en particulier, c'est l'étude des attributs de Dieu. La christologie, c'est l'étude du Christ. L'angélologie, c'est pas Angela, c'est l'étude des anges, bons ou mauvais. J'ai pas dit que Angela n'était pas un ange, mais ce n'est pas l'étude d'Angela. L'anthropologie, alors anthropos c'est l'homme, c'est donc l'étude de la condition de l'homme. Et puis il y a un nom un peu savant, c'est la sotériologie. Alors la sotériologie, ce n'est pas le saut en hauteur, c'est simplement l'étude de la doctrine du salut. Je vous donne ces choses pour que vous soyez un peu calés en théologie. Puis il y a l'ecclésiologie, c'est l'étude de l'Église, comment elle est arrivée, quelle est sa fonction, sa mission. Et puis il y a un nom un peu barbare qu'on appelle l'eschatologie. Et l'eschatologie, c'est simplement la chose des eschatos, c'est-à-dire des choses à la fin. C'est l'étude des choses de la fin, c'est l'étude de la fin des temps. Et on va parler un peu de ça ce soir, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui passionne les foules. Il suffit pour un magazine comme l'Express, Le Point, pour vendre quelques... Quand leur vente commence à baisser, pof, ils sortent un petit numéro religieux sur la fin des temps, sur l'Apocalypse, et là, ça repart. Et parmi les prophéties dont j'ai parlé au début, il y a un événement clé dans la Bible qui est lequel, à votre avis, en parlant des temps futurs? La fin du monde? Le retour? Christ, le retour. C'est comme comme un film à succès qui... Non, non, c'est... Parlons de ça sérieusement, c'est le retour de Jésus-Christ, c'est une chose sacrée. Et dans l'Ancien Testament, il y a 1845 références à ce retour de Christ. 1845. 17 livres de l'Ancien Testament qui en comptent combien? 39. Il y a 17 livres de l'Ancien Testament qui parlent du retour de Jésus-Christ, le retour du Messie. Dans le Nouveau Testament, il en est question 318 fois. Ce n'est pas un sujet facultatif. Et sur les... Combien de livres dans le Nouveau Testament? 27. Hein, 27 plus 39 égale 66, le nombre de livres. Parle de ce retour de Christ. Il y avait 300 prophéties dans l'Ancien Testament sur la première venue de Christ, qui donc se sont réalisées en l'espace de 33 ans, ou quelques. Et pour chacune de ces prophéties, on peut compter 8 prophéties sur le retour de Christ. Et sachant comment les prophéties de la première venue de Christ se sont réalisées à la lettre, il devait naître à Bethléem, il devait entrer à Jérusalem sur un âne, il devait être trahi par un ami pour 30 pièces d'argent, etc. On sait que ces choses se sont passées à la lettre. Donc on a toute raison de croire que tout ce qui est promis dans la Bible sur le retour de Christ va se réaliser ainsi. Alors quand on parle de la fin des temps, on a un autre type de doctrine concernant ce retour de Christ. Il y a ce qu'on appelle l'amillénialisme. C'est un nom savant, ça veut dire qu'il est question dans la Bible d'un règne de 1000 ans de Christ, dans la Bible, l'Apocalypse 20 notamment. Et en fonction de la position relative du retour de Christ par rapport à ce règne de 1000 ans, on a grosso modo 3 doctrines, l'amillénialisme, le post-millénialisme et le pré-millénialisme. Alors, l'amillénialisme, tout d'abord, c'est la doctrine officielle de l'Église catholique et de beaucoup de mouvements protestants traditionnels. Et ça s'est développé parce que, sous l'impulsion d'un gars qui s'appelait Origène, un grec à Alexandrie, qui étudiait la Bible, il avait commencé à prendre une interprétation symbolique de la Bible. Au lieu de s'en tenir à la lettre de la Bible, de croire que Dieu sait ce qu'il dit et Dieu dit ce qu'il veut dire et Dieu veut dire ce qu'il dit. Quand Dieu nous dit quelque chose, c'est parce qu'il a décidé de dire ainsi, et il veut tout nous dire de cette façon, on n'a pas à jouer aux devinettes avec Dieu comme trop de gens le croient. En prenant ainsi une distance par rapport au texte, en le considérant comme symbolique, en disant en fait ce sont des allégories, ça ne veut pas dire vraiment ça, mais ça veut dire qu'il y aura un jour où les choses iront mieux. On appelle ça des fois des pères de l'Église parce que ça a été les premières personnes influentes de l'Église. Origène a commencé à prendre une distance par rapport au texte littéral, et le grand théologien du 3e siècle, c'est Saint Augustin. Saint Augustin, lui qui est devenu en fait le fondateur de la doctrine de l'Église catholique, a popularisé cette idée qu'en fait, il n'y avait pas vraiment un règne de 1000 ans de Jésus. Et son idée, c'était qu'en fait, les promesses qui étaient faites pour le peuple juif avait failli à sa mission et donc il était remplacé par l'Église. Et que les prophéties qui s'adressaient au peuple juif, notamment en ce qui concerne le retour de Christ, ça allait s'adresser à l'Église, et qu'en fait, on était déjà dans le règne de 1000 ans. Quelqu'un a dit qu'on sait par l'Apocalypse 20, au chapitre 20, verset 2, que le diable, Satan, est lié pendant cette période de 1000 ans. Et la personne qui disait « si ce qu'on vit en ce moment, c'est le millénium », alors, je dis que la chaîne de Satan est trop longue, parce que Satan a encore beaucoup de liberté en ce moment pour faire beaucoup de mal dans notre monde. Donc, L'amillénialisme, c'est de dire qu'il n'y a plus de spécificité d'Israël, que maintenant c'est l'Église qui est repreneuse des promesses faites à Israël, et qu'en fait il ne va pas y avoir de retour de Jésus en personne, que ça, ce retour il est déjà là, c'est par l'Église que ça se passe. Ça c'est la première doctrine. L'autre doctrine, le post-millénialisme. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà, c'est c'est après. Donc l'idée, c'est que Christ reviendrait après le millénium. Alors c'est bizarre, parce que ces deux théories sont bizarres parce que, en fait, Christ doit venir, normalement, doit être là. Dans une, on dit qu'il ne va pas venir, et puis dans l'autre, on dit qu'il va venir après. Alors s'il règne pendant 1000 ans, pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il va venir après? Mais ça ne les gêne pas. C'est les doctrines tenues par certains. Et il pense qu'en fait, c'est la tâche de l'Église, c'est de préparer le monde à la venue de Christ. Donc il prône un engagement politique pour purifier le monde. Ils veulent que l'Église impose la loi de l'Ancien Testament à la société, un peu comme une charia à la musulmane, influencer la société pour qu'elle soit prête au retour de Christ. Et ça, c'est une doctrine qui est en perte de vitesse, mais la doctrine qui semble être la plus proche de ce qu'on lit dans la Bible, lorsqu'on prend le texte tel qu'il est, sans chercher à le rendre symbolique ou allégorique, c'est la théorie prémilléniale, c'est-à-dire le retour de Christ avant son règne de 1000 ans. Entre parenthèses, on a parlé des différentes branches de la théologie, une qui manque et qui est de façon surprenante, alors qu'en fait le sujet occupe 5/6 de la Bible, c'est ce qu'on devrait appeler l'Israélologie, l'étude d'Israël. Parce que Israël, c'est une réalité, c'est le peuple choisi de Dieu. Il a décidé de s'incarner dans la race humaine. En prenant un peuple, il s'est incarné dans la race juive. Et pour comprendre la Bible, il est très important de distinguer Israël de l'Église, ce que ne fait pas l'Église catholique et d'autres mouvements, pour voir les promesses qui sont propres à Israël et les promesses qui sont propres à l'Église. Les deux ont des origines différentes, elles ont des destinées différentes, et la théologie qui dit consiste à dire qu'en fait Israël a été remplacé par l'Église, ça a conduit à des tas de problèmes. Notamment, je crois que si on n'avait pas eu cette doctrine de remplacement, l'Holocauste n'aurait pas été permis. Le fait qu'il y avait un antisémitisme qui avait été pendant longtemps favorisé par cette doctrine de l'Église a permis à l'Holocauste de prendre place. Il y a des promesses dans les prophéties de Daniel chapitre 9, on a vu ça en faisant l'étude des prophéties dans l'Ancien Testament, dans notre série. Ça s'applique spécifiquement à Israël, notamment la 70e semaine, et on s'aperçoit en regardant ces théories, on n'a pas le temps de le faire en détail ce soir, qu'il y a des choses qui sont mises en place pour Israël, et à un moment donné, ça a été le temps de l'Église où Dieu, devant la désobéissance du peuple juif à propager la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, a décidé de s'occuper des païens, des nations, de ceux qui ne sont pas juifs. Mais on a vu qu'en fait, il est un temps dans la fameuse prophétie de Daniel 9 où la 70e semaine repart pour Israël. Donc c'est très important de voir qu'en fait, et dès l'Apocalypse, à partir du chapitre 4, il y a des distinctions très nettes entre ce qui se passe pour l'Église et ce qui se passe pour Israël. Et ne pas faire la différence, ça veut dire qu'on s'engage à tout mélanger et à ne rien comprendre dans la Bible. Un autre événement important, après le retour de Christ, c'est lequel, concernant l'Église cette fois-ci, pour la fin des temps? Rupture. Ça, c'est en anglais, c'est rapture. l'enlèvement de l'Église, le grand kidnapping de l'Église. C'est... Alors on dit des fois que rapture, ça vient de l'italien, du latin plutôt, rapturo, qui est une traduction du grec arpazo. Arpazo, c'est le bruit. Arpazo, c'est on attrape et on sort de quelque chose qui est dans une mauvaise situation. C'est-à-dire que l'Église, les saints de l'alliance de Dieu avec son peuple, à part Israël, vont être enlevés. Si on a mis notre foi en Christ, si on est né de nouveau, selon Jean 3, à ce moment-là, à ce moment donné, on va être translaté, enlevé, warpé. On va se retrouver avec Christ dans les cieux. Et je reconnais avec vous, c'est difficile à concevoir, d'autant que maintenant il y a cette série, en anglais c'est Left Behind, c'est laisser derrière, laisser pour compte, ceux qui ne sont pas sauvés et qui restent sur terre, se retrouvent avec leurs parents, leurs amis, soudain il y a un tas de vêtements, la personne a été enlevée pour être avec Dieu, et on peut dire c'est ridicule, c'est absurde. Et quelqu'un disait c'est un peu comme la physique quantique. La physique quantique, quand on essaye d'expliquer qu'en fait on ne peut pas savoir où sont les électrons à un moment donné, ça paraît absurde. Un électron, il doit être en un endroit ou un autre. Et c'est absurde, c'est ridicule, mais la seule chose en faveur de cette théorie quantique, c'est qu'elle est absolument correcte. Et de la même façon, la doctrine de l'enlèvement de l'Église, on peut trouver que c'est bizarre, on peut trouver que c'est ridicule, c'est un peu poussé. Mais c'est ce que nous annonce la Bible. On a toute raison de croire, en raison encore des prophéties qui ont été réalisées, de toutes celles qui vont se réaliser, c'est la vérité. Parmi les lettres de Paul qui parlent de ces sujets, on a notamment les épîtres 1 et 2 aux Thessaloniciens. Il y avait la lettre à Tite, Paul parlait de la bienheureuse espérance, de ce retour, de cette deuxième venue de Christ. Et cette venue de Christ, ça doit être quelque chose qui est toujours présent à nos esprits. Parce que si on sait que Christ revient, on a tendance à penser à lui, à se purifier, comme dit la parole. Et c'est une doctrine qui est un peu tombée en désuétude. Et c'est vrai que la réforme avec Luther au XVIIe siècle a fait un travail merveilleux pour corriger la doctrine concernant le salut. Vous savez qu'avec l'Église du 1er siècle, qui était devenue l'Église catholique avec la conversion de Constantin, en fait il s'était éloigné du salut par la foi pour en venir au salut par les œuvres. Et il y avait des raisons bien matérielles pour cela, c'est que on pouvait dire aux gens qu'en fait il y avait un purgatoire, mais que s'ils voulaient que leur bien-aimé qui était décédé passe du purgatoire au paradis, ils pouvaient faire dire des messes, ils pouvaient payer ce qu'on appelait des indulgences. Et donc, la théorie des œuvres, du salut par les œuvres, est devenue prépondérante, et Luther, ça a été son grand apport à la foi chrétienne, c'est de dire non, attendez, c'est faux. Il est dit dans Romains 1, 16, le salut c'est par la foi, le juste vivra par la foi, qui était un message d'Habacuc qu'on retrouve commenté dans Romains, dans Hébreux et dans Galates. À chaque fois il parle du salut dans Romains, de la foi dans Hébreux et de la vie du chrétien dans Galates. Donc Paul, on peut regarder ensemble, on va regarder quelques passages. 1 Thessaloniciens 4, 13. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a peut-être à distribuer. 1 Thessaloniciens 4, 13. C'est des choses qu'il est aussi important de connaître. parce que nous sommes entourés par des amis, des familles, des membres de nos familles. Et tôt ou tard, on est confronté au décès d'un être cher. Et souvent, les gens veulent savoir, mais où est-ce qu'ils sont? Où est-ce que... Et on a la mythologie populaire qu'en fait, quand on meurt, on va être au ciel en train de regarder ceux qu'on aime. Et ça, c'est la théologie de « on ira tous au paradis ». On ira tous au paradis, ta-da-da. C'est pas très fondé sur la Bible ou quoi que ce soit. C'est plutôt ce qu'on désirait. On désirait bien que ça se passe comme ça. On vit n'importe comment et en plus on termine au paradis. Et dans ce passage, verset 13 du chapitre 4, il dit justement, lui aussi il veut faire partir l'ignorance. Il dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne nous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, c'est un autre mot pour le retour du Seigneur, l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et donc, ça explique qu'est-ce qui se passe pour le croyant qui meurt. S'il est mort, c'est-à-dire verset 15, ceux qui se sont endormis vont être réveillés, les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons vivants au moment de ce retour de Christ, nous serons aussi enlevés ensemble avec eux dans les nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et à partir de ce moment-là, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et c'est vrai que si on a cette foi, on a cette bienheureuse espérance, on a une autre façon de voir la mort, de voir la séparation avec les êtres qu'on aime. Ça, c'est une grande promesse. Au chapitre suivant, verset 4 du chapitre 5, il continue en disant « Vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. » Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance, du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Là, c'est un passage qui est le chapitre 5, on parle peut-être dans votre Bible, c'est intitulé, pour le chapitre, il y a un titre, ça s'appelle « Le jour du Seigneur, la vigilance ». Donc, ça parle de ce retour, mais ça parle aussi de la colère au chapitre, au verset 9. « Et nous ne sommes pas destinés à la colère », on va y revenir. La deuxième lettre de Paul, de Thessaloniciens, au chapitre 2, nous donne un peu l'ordre de cérémonie, l'ordre des choses, comment ça va se passer. Chapitre 2, verset 1, « Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus et notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelque parole ou par quelque lettre qui nous serait attribuée, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Il mettait en garde certains Thessaloniciens qui avaient pensé, au vu des persécutions qui arrivaient à cette époque, Ils pensaient que la colère du Seigneur était arrivée. Ils pensaient que c'était ce qu'on appelle, on va voir plus tard, ce jour de la colère, la grande tribulation dont parle Jésus dans Matthieu 24. Ils pensaient que c'était déjà arrivé et c'est pour ça qu'ils étaient, en fait, ils étaient très ébranlés, comme il est dit, très déçus, très tourmentés. Et là, si Paul leur avait enseigné une vision du retour de Christ après la tribulation, on peut penser qu'ils se seraient réjouis en fait des tribulations, en disant mais si il y a les tribulations maintenant, ça veut dire que demain ou à un moment donné, il va y avoir le retour de Christ. Alors que là, visiblement, c'est pas ce qu'ils avaient appris de Paul. Il leur avait inculqué le fait qu'il devait être enlevé avant la grande tribulation. Et ce qui les tourmentait, c'est qu'en fait, ils se disaient si c'est la grande tribulation a commencé, nous on est toujours là, ça veut dire qu'on n'est pas sauvé, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que Paul essaye de mettre un peu d'ordre dans la séquence des choses. Il va parler, on va revenir. Ce qui est intéressant de constater, c'est que souvent dans les églises, on ne parle pas de ces choses-là. Les prophéties, la fin des temps, c'est trop compliqué, il y a trop de choses ridicules qui sont dites. Donc on laisse ça de côté. Alors qu'en fait, Paul prend bien le souci de dire à ces chrétiens de Thessalonique, il leur rappelle ces choses. Il avait passé quelques semaines quand il avait implanté l'église pour les enseigner. Et en quelques semaines, il leur avait déjà parlé de l'enlèvement de l'église, du retour du Seigneur. Ce n'était pas une doctrine qu'on laissait un peu facultative, c'était quelque chose d'essentiel. C'était quelque chose qui faisait que les chrétiens de cette époque étaient des chrétiens engagés. Ils savaient que le monde n'était pas la finalité du chrétien, qu'il y avait quelque chose qui arrivait, que c'était une bienheureuse espérance, et ils y croyaient dur comme fer. Donc, lisons à partir du verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière. » Donc, quand on vous dit « on ira tous au paradis », ne dites non, ne vous laissez pas séduire par ça. « Il faut qu'auparavant, l'apostasie soit arrivée. » Alors qu'est-ce que c'est que l'apostasie? Apostasie, ça veut dire être posé à côté, c'est-à-dire qu'on est dévié de la bonne doctrine, c'est un reniement de la vraie doctrine. Donc il faut que l'Église dans son ensemble commence à prêcher l'erreur. La première chose, ça doit être l'apostasie. Il faut que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève, au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Hein, on a déjà parlé de ces choses-là. Il parlait de ce personnage que l'on appelle aussi par ailleurs l'antéchrist, celui qui se fait passer pour Dieu, pour Christ, dont il est question dans la prophétie de Daniel 9 et dans les passages de l'Apocalypse dont on parlera dans les semaines à venir. Cet homme qui va apparaître comme un homme d'une grande sagesse, d'un grand charisme au sens humain, il faut qu'il se révèle. On pense que ça va être un grand homme politique qui aura apparemment des solutions aux problèmes de l'humanité et que tout le monde admirera et qui va aller signer un traité de paix avec Israël qui va finalement se révéler au milieu d'une période de 7 ans, cette 70e semaine de Daniel, qui va vouloir se faire adorer dans le temple de Dieu à Jérusalem. Ça veut dire que aussi il va falloir que le temple soit reconstruit. Jésus parle aussi de ce moment dans le temple de Dieu à la fin des temps. Donc à Jérusalem, il y a un temple qui sera reconstruit. Et lorsque le temple sera reconstruit, on saura qu'on est près de ces événements. Il y a en ce moment une exposition sur le temple de Jérusalem à Nice. Je ne sais pas si quelqu'un l'a... Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non. C'est au musée archéologique de Cimiez, je crois qu'il y a une... J'ai pas vu encore, mais je vous invite à la voir. C'est intéressant de savoir qu'en Israël, il y a des juifs très sérieux qui sont en train de préparer le service dans le temple, il y a des écoles de rabbins pour savoir comme dans le temps des Lévitiques, du Lévitique, comment faire les sacrifices, etc. Ils ont même reconstitué une vache rousse qui leur paraît convenable pour faire les sacrifices comme selon l'Ancien Testament. Et le temple à Jérusalem, il y a des gens qui sont prêts à le construire. Ça risque de mettre le feu aux poudres parce que certains pensent que l'emplacement devrait être là où est bâtie la mosquée musulmane, sur ce qu'on appelle en France le terre-plein des mosquées, l'esplanade des mosquées, ce qu'on appelle par ailleurs le mont du temple, ce qui paraît plus logique. Et donc, lorsque ce temple va être construit, ça risque de choper. D'autres disent non, en fait, ils peuvent être à deux endroits différents. Mais d'abord, l'apostasie, la révélation de cet homme, d'un seul coup, on va dire, il est formidable, il va tout régler. Car déjà, je continue, déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors il y a un mystère de l'iniquité qui est retenu par quelqu'un, et lorsqu'on regarde en grec, il ne s'agit pas de l'Église, parce que c'est pas, l'expression n'est pas au féminin, c'est au neutre, et on pense qu'en fait il s'agit de l'Esprit Saint qui retient le mal pour l'instant. Si vous pensez que les choses vont mal, sachez que c'est rien encore à côté de ce que ça pourrait être. Et donc celui qui retient, qui empêche. Et là il est dit, alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement, par son retour. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient en mensonge afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Et puis, un peu plus loin, il est dit que, au même chapitre, verset 9, l'avènement de l'impie, donc on l'a lu ça, se produira. D'accord, donc il est question du jour du Seigneur. Donc l'ordre des choses, c'est d'abord l'apostasie, l'Église qui commence à enseigner l'Église au niveau mondial. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des Églises qui enseigneront la vérité, mais globalement l'Église, et on voit un peu des fois lorsque les Églises se réunissent avec les bouddhistes, les musulmans pour prier ensemble, l'esprit d'assise, comme il est question des fois, on se demande vers quel Dieu ils prient. L'apostasie, le départ de l'Esprit Saint, donc c'est le départ de l'Église, l'enlèvement de l'Église, et à ce moment-là, on verra l'impie, l'Antéchrist se révéler, et c'est là seulement qu'il y aura le jour de la colère, la grande tribulation qui arrivera. Donc ça, c'est important d'avoir cette séquence en tête pour comprendre quand on lit tous ces passages. La série dont j'ai parlé, américaine, là, parlant de la fin des temps, sur qu'on appelle les « left behind », ceux qui sont laissés derrière, alors que leurs amis, parents chrétiens, sont enlevés avec le Seigneur, eux, ils se retrouvent en bas. On a l'impression, en lisant cette série, qu'en fait, ils ont une deuxième chance, pendant la grande tribulation, de venir à Christ. Et c'est un message dangereux, parce qu'on peut se dire, bon, mais je ne me presse pas pour être sauvé, je vis comme n'importe comment, comme bon me semble, comme dit le livre des juges. Et puis quand je verrai que les choses sont sérieuses, à ce moment-là, je me convertirai, ou je viendrai sérieux, je serai sérieux avec le Seigneur. Mais là, il est dit qu'on pourra recevoir ceux qui font un tel pari, auront comme un esprit d'égarement. Et ils seront trompés par toutes les séductions de l'injustice, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc c'est peut-être la principale critique pour cette série qui est au demeurant très, très en ligne avec le texte biblique. c'est que je ne crois pas qu'il y ait deuxième chance pour ceux qui auraient rejeté Christ de leur vivant pendant la période de la Grande Tribulation. C'est différent pour ceux qui naîtraient pendant la période de la Grande Tribulation, parce qu'il est question de saints, c'est-à-dire de personnes sauvées pendant la Grande Tribulation, mais c'est dangereux de faire croire aux gens qu'en fait ils ont tout leur temps. Il y a une urgence dont on doit être conscient et donc qu'on doit communiquer aussi aux autres. Alors si on compare un peu ces deux événements, qu'il faut séparer, l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ, l'enlèvement de l'Église, c'est les croyants qui vont au ciel pour retrouver Jésus, alors que le retour de Christ, c'est les croyants qui vont revenir avec Jésus sur terre, pour régner avec lui. Dans l'enlèvement d'Église, la terre n'est pas jugée, alors qu'elle l'est pendant le retour du Christ. L'enlèvement d'Église pourrait arriver maintenant. Et ça, c'est très important qu'on ait ce sentiment d'imminence. Même sans attendre que le temple soit reconstruit, on pourrait être enlevé. Et c'est très important. On ne sait pas ni l'heure ni le moment, mais on doit pouvoir être en mesure de regarder des signes avant-coureur, sans fixer de date, même Dieu, même le Fils ne connaissait pas la date, il nous est dit dans la parole. Christ vient chercher son épouse pour l'enlèvement de l'Église, alors que quand il, à son retour, il vient pour juger les hommes, établir son règne. L'enlèvement de l'Église, seulement ceux qui lui appartiennent vont le voir, c'est-à-dire les croyants, et d'abord les morts en Christ vont être ressuscités et vont être avec lui, alors que le retour de Christ, il est dit dans Zacharie, dans l'Apocalypse au chapitre 1, que tous les hommes, toutes les nations de la terre le verront. Il va être vu de tous. Dans l'enlèvement d'Église, en fait, dans la vision évangélique des choses la plus courante, c'est le début, c'est le prélude à la grande tribulation, à cette grande période de catastrophe dont il est question dans Daniel, dans l'Apocalypse et d'autres textes bibliques. Le retour de Christ, c'est le prélude au début de son règne de 1000 ans, ce qu'on appelle par ailleurs le millénium. Donc ces deux événements qu'on peut un peu mélanger, mais qu'il ne faut pas surtout mélanger. On a parlé des trois grandes doctrines d'amillénialisme, de post-millénialisme et de pré-millénialisme. Maintenant, en fonction de la position de l'enlèvement d'Église par rapport à cette période de la grande tribulation, on peut lire d'ailleurs Matthieu 24 pour voir d'où vient ce terme. On a parlé tout à l'heure de l'Antéchrist qui allait se faire adorer dans le temple de Jérusalem. C'est intéressant que souvent les prophéties ont plusieurs accomplissements, plusieurs réalisations. Il y a souvent une réalisation immédiate à l'époque pratiquement où la prophétie a été dite. Et puis il y a une réalisation, un accomplissement pour la fin des temps. Et c'est le cas justement de ce qu'on a, Jésus appelle ici l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel au verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le ciel, il fasse attention. En fait, il y avait eu une période après le règne d'Alexandre en Grèce où un certain Antioque Épiphane s'était fait adorer dans le temple de Jérusalem. Il avait même mis des truies qui sont donc des animaux impurs. Il avait fait des sacrifices dans le temple de Jérusalem, et c'était donc une première réalisation, cette abomination de la désolation. Mais là, Jésus parle encore de cette même chose au futur. Lorsque vous verrez cela arriver, que le lecteur fasse attention. Et un peu plus loin, il dit, verset 21, car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors les élus dont il est question, ce n'est pas les chrétiens, les croyants chrétiens, ce sont les élus du peuple juif dont il est question ici. Mais cette expression, la grande tribulation, c'est Jésus lui-même qui en parle, c'est une réalité, c'est quelque chose qui va arriver. Et en fonction de la position relative, il y a plusieurs positions, vous vous souvenez ? J'ai entendu parler des pré-tribes, des post-tribes, des mid-tribes. Alors, les post-tribes, c'est ceux qui disent qu'en fait, l'enlèvement de l'Église, ça va se faire après la période de la grande tribulation. Autrement dit, l'Église va subir cette période de souffrance terrible. C'est intéressant parce que dans plusieurs endroits, dans les prophètes, il est question du temps d'angoisse de cette même période. C'est ce qu'ils appellent un temps d'angoisse pour Jacob. Donc c'est vraiment un temps, une grande tribulation qui va toucher non pas les chrétiens, mais le peuple juif. La période sous Hitler, ce qu'on appelait l'Holocauste, a pratiquement exterminé un juif sur trois. Il y a eu 6 millions de juifs, n'en déplaise aux révisionnistes, qui ont été exterminés. Sur à peu près une vingtaine de millions à l'époque de juifs de par le monde. Donc un juif sur trois, il est dit dans Zacharie qu'en fait lors de la période de la grande tribulation, les deux tiers des juifs vont être retranchés. Ça va être une période terrible. Ce sera une période d'angoisse, un temps d'angoisse pour Israël, mais aussi pour le reste du monde. Et on en parlera encore quand on va survoler l'Apocalypse. Et donc, suivant la position de ces deux événements, on a les post-tribes. Donc ça veut dire que l'Église passerait à travers cette période. Et là aussi, il y a des chapitres qui nous disent, on l'a vu dans Thessaloniciens, qu'on n'était pas destiné à la punition. Dans Apocalypse 3, verset 10, parlant, c'est vrai, à l'église de Philadelphie, qui est la bonne église, on peut dire. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est Jésus qui envoie ses messages aux églises. Donc là, c'est quelque part, il explique que l'église de Philadelphie, facilement comprendre que c'est l'Église qui lui restait fidèle, ne passera pas par cette période de la grande tribulation. D'autres disent que cet enlèvement d'Église va se produire au milieu de la grande tribulation. C'est ce qu'on appelle les mid-tribulationnistes ou mid-trib. C'est une position aussi qui est un peu bancal, on pourrait dire. Et puis il y a l'autre position, qui est la position de la plupart des évangéliques protestants, c'est la position pré-trib, c'est-à-dire que l'Église va être enlevée avant le début de cette grande tribulation. Qui consiste à penser que la période de grande tribulation et ensuite l'Église va être enlevée, ça enlève aussi l'idée que cet enlèvement peut être imminent, et c'est pas quelque chose que Dieu veut. On doit vivre dans l'attente imminente de son retour, de son enlèvement. Et si on est post-trib, on se dit on a le temps de voir venir, on va voir quand les choses vont vraiment être mauvaises, on va voir l'Antéchrist à Jérusalem, on verra le temple là, on pourra commencer à se devenir sérieux avec Christ. Mais c'est pas en accord avec l'ensemble de l'enseignement biblique qui veut nous donner un sens de l'imminence du retour de Christ. Donc toutes ces choses sont des certitudes pour le chrétien qui a confiance en la Bible, qui réalise que les prophéties passées se sont réalisées à la lettre, et qui n'a aucune raison de douter des prophéties futures. Le retour de Christ, c'est une certitude. Et ça doit être quelque chose qui est enseigné, c'est quelque chose qui doit être présent dans nos cœurs. Il y a l'enlèvement d'église, c'est aussi une certitude. On sait qu'on va être enlevé, alors c'est vrai qu'il y a ces différentes opinions, mais la grande tribulation, en recherchant le texte, c'est de prendre ce que je vous dis ce soir comme une parole d'évangile. Regardez les évangiles, regardez les différents livres dont on a parlé, les prophètes, prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel parlent beaucoup de la fin des temps, les passages du prophète Daniel, et puis toutes les références que l'on trouve dans le Nouveau Testament sur ces événements de la fin des temps. Ça, c'est ce qu'on appelle l'eschatologie, en termes savants, mais en fait, c'est des choses que vous devez savoir et être capable d'être capable d'en parler à vos proches. Et donc, il est important que vous fassiez vous-même vos propres idées, que vous recherchiez ces textes, que vous les étudiez. Il y a des très bons ouvrages que vous pouvez trouver en librairie qui peuvent vous expliquer les différentes visions des choses, et à vous de vous faire votre intérêt. Mais c'est important, je crois aussi, de réaliser que le caractère de Dieu fait qu'on peut penser qu'il va emmener l'Église avant la grande tribulation. Et souvent, c'est vrai, là, on a la promesse de tribulation dans l'Évangile. Tous ceux qui vivront pieusement en Christ seront quoi ? Ils seront félicités ? Ils seront décorés ? Ils seront payés ? Ils seront persécutés ? Donc si vous vivez pieusement en Christ, c'est-à-dire en faisant tous vos efforts pour vivre comme Dieu le veut, comme Christ le veut, vous n'auriez pas à être surpris d'être persécuté. Mais il faut faire la différence entre les tribulations, les persécutions et la grande tribulation. La grande différence, c'est que les tribulations, elles nous viennent du monde, du diable, de notre chair. À cause de notre foi, nous sommes en but à ces persécutions. Mais la grande tribulation, c'est quelque chose qui va venir de Dieu lui-même. Ça va être sa colère contre un monde qu'il a rejeté. Vous vous souvenez de l'épisode où Abraham plaidait avec Dieu quant à la destruction de Sodome. Il lui disait « Est-ce que tu vas faire succomber le juste avec le méchant ?» Encore une fois, peut-être vous vous dites, mais ma vie, elle n'est pas si juste que ça, je commets encore beaucoup de péchés, je m'emporte, je suis égoïste, je cherche mon intérêt en premier. Viens, c'est pour les justes, mais toi, regarde ce que tu viens de faire. Savoir que si vous avez foi en Christ, alors vous avez reçu sa justice. Le Père vous voit comme s'il voyait Jésus, et vous aimera jamais plus ni moins que le jour où vous mettez votre confiance en lui. Après, tout le reste, c'est du bonus. Tout ce que vous pouvez faire pour Dieu, c'est par amour pour lui, c'est parce que si vous avez cette foi, alors automatiquement, ça va rayonner, ça va réchauffer les autres, mais c'est toujours pas pour mériter, c'est donc ses promesses. Lorsque Abraham parlait du juste, et est-ce qu'il allait condamner le juste avec les mauvais à Sodome? Vous vous souvenez, il avait dit, mais est-ce que tu condamnes, s'il y avait 50 justes, est-ce que tu détruirais la ville? Il dit, non, je ne ferai pas pour 50, je ne ferai pas. Et en fait, c'est l'esprit, le cœur de Dieu, c'est de sauver tous les hommes, il est dit. Et surtout les justes. Il ne peut pas dire à ces justes qu'il va maintenant les détruire. On a ces passages, on vient de voir Apocalypse 3:10. Il faut que l'enlèvement de l'Église arrive avant la grande tribulation, pour que ce soit en accord avec le caractère de Dieu lui-même. Et l'imminence du retour de Christ, on peut la voir par plusieurs éléments. D'abord, que le peuple juif est de retour sur la terre promise. L'État d'Israël a été formé seulement il y a quelques années, le 14 mai 1948, après avoir été dispersé pour plus de 2000 ans. Ça, c'est une chose unique dans les annales de l'histoire de tous les peuples. Jamais un peuple a été expulsé de son territoire, dispersé, persécuté, pour revenir dans son territoire d'origine et se reconstituer. Il faut que Jérusalem soit aux Juifs. Jusqu'à 67, ce n'était pas le cas. Maintenant, depuis 80, c'est la capitale éternelle et unifiée. On a parlé du temple et les projets de reconstruction imminents. On parle toujours de la paix au Proche-Orient, que ce soit avec Anwar el-Sadat, président égyptien en 1977, c'est un moment de grand espoir pour ceux qui en ont entendu parler. C'était de voir le président égyptien parler de paix à la Knesset en Jérusalem, plutôt en Israël. C'était quelque chose, on pensait que la paix pouvait arriver. Mais Jésus nous a mis en garde contre ceux qui disent paix, paix, car la paix, c'est lui qui peut l'apporter. Il est le prince de paix. Seul Jésus peut amener la paix en Israël. Et on le voit bien, tous les processus de paix engagés, même les meilleures volontés, Yitzhak Rabin et tous les gens qui veulent défendre la paix en dehors de la foi en Christ, sont obligés de réaliser que leurs efforts sont vains. Donc on reparlera de ces éléments. Encore une fois, l'imminence, il est dit que l'avènement du Seigneur, c'est comme la venue d'un voleur. Et un voleur, il ne prévient pas à l'avance. C'est comme ça qu'il nous surprend, il arrive quand on ne s'y attend pas. Donc on doit être conscient qu'à tout moment, on pourrait être rappelé par le Seigneur. Et donc, il faut avoir en tête cette séquence des événements dont on a parlé, et puis pouvoir expliquer à d'autres qui sont en recherche, toujours faire bien la différence entre l'Église et Israël pour pouvoir y comprendre quelque chose, sinon on doit jongler avec les événements, les textes bibliques. Quelqu'un disait, c'est vrai que si on torture des données assez longtemps, on peut les faire parler, on peut leur faire dire n'importe quoi. Et souvent c'est le cas, on prend tel passage au figuré, tel autre passage au sens littéral. Encore une fois, on a toute raison de croire que Dieu dit ce qu'il veut et il veut ce qu'il dit. Il sait ce dont il parle et il ne cherche pas à nous tromper. Et l'accent de avoir présent à l'esprit l'accent sur ce retour imminent du Seigneur pour ses croyants et aussi le retour, la fin des temps, c'est quelque chose qui va nous encourager à l'évangélisation. Si on sait qu'il y a peu de temps, on va se bouger, on va aller au-devant des gens pour leur parler. Si on se dit, oh, on ne sait pas trop, contentons-nous d'être de nos réunions, de vivoter entre chrétiens. On n'est pas nombreux, mais c'est normal, c'est le ghetto chrétien. On est vaincu à l'avance et on ne fait pas une grande différence pour le Christ. Le retour de Christ et l'évangélisation, ça va de pair, ça va ensemble. Voilà, on va s'arrêter là. S'il y a quelques questions, encore une fois, on aura l'occasion donc de survoler l'Apocalypse en les deux prochaines sessions. Donc, essayez de savoir si vous êtes amillénialiste, postmillénialiste, prémillénialiste, pré-trib, mid-trib, post-trib. Il y en a qui disent en anglais qu'ils sont pan-trib, ça veut dire que de toute façon, ça marchera parce que c'est Dieu qui contrôle les choses. C'est une façon de voir les choses, mais je crois qu'il nous a donner beaucoup d'informations. Encore une fois, ce n'est pas des passages isolés. Si on fait une étude systématique, on s'aperçoit que la Bible est pleine de ces prophéties, de ces références. Et comme il est dit dans Deutéronome 29:29, les choses cachées appartiennent à Dieu, mais celles qui sont révélées nous appartiennent et nous devons les connaître et nous devons être capables de les expliciter, de les expliquer autour de nous. Des questions ? Remarques ?